Tentative de connexion. Vous êtes connecté. Bienvenue dans Script.
Salut et bienvenue pour ce 13e épisode. J'espère que la fin d'année s'est bien passée pour vous et que tout va bien chez vous. Ici, comme vous aurez pu le remarquer, la fin d'année fut complexe, on va dire. Mais je suis de retour. Et ce mois-ci, on va discuter un peu des DNS. On verra un peu qu'est-ce que c'est un DNS et quel est son principe, son fonctionnement et son histoire. On parlera aussi des affaires liées aux extensions des noms de domaine. On va simplement commencer par voir un peu c'est quoi un DNS. Vous en avez de toute façon déjà utilisé un si vous êtes promené sur Internet ou si vous écoutez ce podcast. Puisque le DNS, pour Domain Name System, est là pour faire le lien entre le nom d'un domaine, podcloud.fr, et l'adresse IP du serveur sur lequel on peut retrouver le site. C'est très pratique. Sans ça, vous devriez retenir par cœur 172.217.22.131 pour accéder à google.fr. Au tout début d'Internet, quand il n'était partagé que par quelques ordinateurs d'université américaine, on utilisait simplement un fichier texte appelé host.txt et qui contenait à chaque fois la corrélation entre l'un et l'autre. À chaque fois qu'on connectait un nouvel ordinateur au réseau, on devait copier le fichier sur celui-ci et à chaque fois qu'on voulait faire un site, il aurait fallu modifier ce fichier et qu'ensuite on le copie sur tous les autres ordinateurs. Il a donc fallu trouver autre chose, même si vous pouvez encore trouver ce fichier sur votre ordinateur, fichier qui n'est plus utilisé qu'en local avant de faire des appels au DNS. La DARPA, l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense, a donc confié à John Postel, à Paul Mokepetris et à Elizabeth Feinler de trouver une alternative à ça. Et c'est comme ça qu'en 1983, le DNS a vu le jour. On reviendra sur l'histoire récente du DNS un petit peu plus tard et on va voir comment fonctionne le DNS dans les deux sens. Par deux sens, j'entends quand un utilisateur veut accéder à un site et quand quelqu'un veut acheter un nouveau nom de domaine. Commençons par le plus simple. Le nom de domaine est composé de plusieurs parties. Une extension, .fr, .com, .mi, un nom de domaine, Bigaston, le podcast, et un ou plusieurs sous-domaines, script de script.lepodcast.fr. Chacune de ces parties va être administrée par un ou plusieurs serveurs. Pour l'exemple, on va partir d'une requête vers script.lepodcast.fr. Pour ça, il faut bien commencer quelque part et dire à un serveur DNS récursif qu'on a besoin d'une adresse IP. Le DNS récursif est la pièce centrale de cette résolution d'adresse. C'est lui qui va interroger pour vous les différents serveurs contenant les informations dont on va parler juste après. Chacun des fournisseurs d'accès Internet a le sien, mais il est tout à fait possible d'héberger le vôtre ou de changer pour prendre celui de Google ou de Cloudflare par exemple. C'est lui qui va s'occuper de résoudre le nom de domaine effectivement. On lui dit donc « Je veux avoir l'adresse IP de script.lepodcast.fr » et il va commencer le travail. Pour le début, il va vérifier dans sa mémoire s'il n'a pas déjà l'adresse IP. S'il ne l'a pas, il va lancer une recherche. Pour cela, il faudra forcément savoir par où commencer. Pour cela, il y a 12 serveurs administrés par 12 organisations différentes. On va leur demander à eux chez qui on peut obtenir les informations sur l'extension .fr. Le .fr, tout comme le .pm, le .yt ou encore le .re, est géré par l'AFNIC, qui est l'association française pour le nommage Internet en coopération. On va donc demander sur leur serveur s'ils ne connaissent pas l'adresse IP de lepodcast.fr. On va nous répondre que non, ils ne connaissent pas l'adresse précise, mais qu'on peut la trouver sur le DNS d'OVH, chez qui est enregistré le nom de domaine lepodcast.fr. On va donc aller demander au DNS d'OVH s'ils savent où on peut le trouver, et bingo, OVH sait où on peut trouver l'adresse de lepodcast.fr, même mieux, il sait où on peut trouver l'adresse de script.lepodcast.fr. Il va donc renvoyer l'adresse au serveur DNS récursif qui, lui, va nous la servir. En gros, une requête est découpée point par point avec à chaque fois un serveur différent gérant la chose. Mais du coup, à chaque fois qu'on fait une requête vers un site, il se passe la même chose ? Et non, sinon ce serait beaucoup trop coûteux. L'intelligence du système est qu'il y a un système de mémoire tampon qui va être là pour renvoyer directement l'adresse s'il l'a en mémoire. Mais cela peut causer des soucis de mise à jour. Par exemple, si on change le serveur de notre site internet, les utilisateurs seront peut-être encore redirigés sur l'ancienne adresse. Et c'est pour ça que le serveur DNS va pouvoir dire combien de temps ce cache va devoir être conservé. Il faut aussi préciser quelque chose. Là, à chaque fois, je parle comme si les serveurs DNS n'étaient qu'une seule machine, mais en pratique, il y a à chaque fois une machine mère et plusieurs machines enfants qui vont se répartir la tâche, sinon le serveur ne tiendrait tout simplement pas. Pour préciser même, il est possible pour un serveur DNS d'être configuré pour envoyer différentes adresses IP pour le même domaine. Soit aléatoirement, soit via un roulement. Comme ça, les très gros sites, du genre google.fr ou wikipedia.org, peuvent avoir différents serveurs qui gèrent les requêtes et éviter que l'un ne crache ou se fasse des DOS. mais ce roulement a lieu avant le cache du DNS récursif, donc une seule adresse sera conservée dans le cache. Et vous accéderez toujours à la même, ou les différents utilisateurs d'un même DNS récursif. Maintenant qu'on a vu le système d'accès aux différentes adresses IP, on va retourner un peu sur l'histoire et on va parler des extensions. Il y en a de plusieurs types. Les domaines de premier niveau national sont ceux qui vont être liés à un pays, .fr, .es, .it, .be, et parfois il va être nécessaire de prouver que notre application est liée au pays en question pour y avoir accès. Ensuite, il y a les domaines de premier niveau générique ouvert, ceux qui vont être liés à un domaine, mais pas forcément en relation avec celui-ci. Par exemple, le .com est lié originellement aux activités commerciales ou le .org pour les entités à but non lucratif. Il y en a bien d'autres, mais je vais terminer par les extensions réservées. On ne peut pas prendre de nom de domaine avec ces extensions, elles sont utilisées à but d'exemple ou de documentation. Il y a le .example, le .invalid, le .localhost et le .test. Voilà comment c'était à la base. Mais l'entité qui régule tout ce qui est nom de domaine, l'ICANN, entité bien sûr américaine, a voulu avoir plus de noms de domaines de premier niveau, pour laisser la place à de nouveaux sites. Et c'est comme ça qu'on a pu voir apparaître le .alsace, le .bzh, et ouais, je parle de vous les bretons, ou des domaines un peu plus spécifiques comme le .moe, lié à tout ce qui est la culture japonaise, le .beer, le .cat, ou des choses comme ça. Des entreprises ont aussi commencé à déposer des domaines de premier niveau spécifiques, comme Amazon avec le .bot, Google avec le .new ou SNCF avec le .sncf. On a donc maintenant une multitude d'extensions disponibles pour coller avec plein de cultures et d'objets différents, chacune avec ses règles. Mais il reste deux choses à dire avec cette histoire de nouveaux noms de domaine. Déjà, qui peut proposer un nouveau domaine de premier niveau ? Eh bien, les grosses entreprises. Il faut montrer qu'on peut supporter le trafic conséquent d'un domaine ouvert ou alors avoir un domaine fermé juste pour sa boîte. Et également une grosse somme d'argent qu'on va devoir verser à l'ICANN tous les ans, ainsi qu'un gros frais de dossier. 185 000 euros de dossier et 25 000 euros par an ont ainsi été dépensés par la SNCF pour son nom de domaine. Et bien sûr, il faut démontrer l'utilité de ce nouveau domaine pour ne pas faire doublon avec un autre ou avoir un truc qui ne servirait à personne. Et parfois, ces entreprises vont se réserver un nom de domaine très utile, du genre le .new avec Google, et le proposer dans un premier temps seulement à des grosses entreprises qui peuvent mettre un paquet de thunes. Du genre, le podcast .new appartient à Spotify qui redirige vers Anchor. Mais tout va bien maintenant, tout le monde peut prendre un nom de domaine en .new. La deuxième chose à dire est une histoire que je tenais tout de même à raconter. En gros, quand tu es développeur, tu as besoin d'avoir des noms de domaine uniquement en local pour des tests. La pratique voulait qu'on utilise le nom de domaine de premier niveau .dev, sauf qu'en 2019, Google a acheté le nom de domaine de premier niveau. Jusque-là, ça pourrait aller, puisqu'en changeant quelques informations en local, on aurait pu s'en sortir, et encore c'est pénible. Mais le nom de domaine .dev est un domaine sécurisé. Dans le code source des navigateurs, il ne laisse accéder au site uniquement s'il utilise le protocole sécurisé HTTPS. Protocole sécurisé très important quand ton site est public, mais quand tu le développes, c'est pénible de faire un certificat auto-signé qui soit reconnu par le navigateur. Donc, grosse levée de bouclier, mais rien à faire, c'est passé. Donc maintenant, les développeurs utilisent le .localhost ou le .test. Juste avant de parler de comment techniquement se passe l'achat d'un nom de domaine, on va juste parler d'un dernier truc lié au nom de domaine. Il s'agit des noms de domaine internationaux. Par défaut, un nom de domaine ne peut contenir que des caractères ASCII, c'est-à-dire des chiffres, des minuscules et des majuscules. Et c'est à peu près tout. Donc si on veut commencer à mettre des caractères russes, arabes ou japonais, ou simplement des accents, bah ça marche pas bien. On a donc trouvé l'alternative de les remplacer par des punycodes, littéralement code chétif, qui va utiliser un algorithme pour remplacer ces caractères spéciaux par des caractères simplement ASCII. Ces domaines seront préfixés par XN- pour indiquer qu'ils utilisent cette technique. Et c'est aussi grâce à ça que dans certaines extensions, on peut mettre des emojis. Et voilà, un peu tout ce qu'il y avait à dire sur les domaines de premier niveau et des noms de domaine en général. Maintenant, on va voir comment techniquement se passe l'enregistrement d'un nom de domaine. Il va y avoir principalement 4 entités. L'ICANN, le registry, celui qui gère un nom de domaine de premier niveau. Le registrar, celui qui gère votre nom de domaine et chez qui vous allez l'acheter. Et vous. Déjà, tout d'abord, un registry va prendre possession d'un nom de domaine chez l'ICANN, avec toute la procédure spécifique listée précédemment. Ensuite, chaque registrar, comme OVH, va passer des contrats avec les registries de chaque domaine, comme la FNIC pour le .fr, pour avoir le droit de vendre ces domaines. Et vous allez ensuite passer des contrats avec les registrars pour acheter vos domaines. Donc prenons l'exemple de script.lepodcast.fr. Pof, notre cher administrateur a besoin d'acheter le nom de domaine lepodcast.fr. Il va aller voir OVH qui, par chance, le propose au prix de 6,99€ par an. Une fois le domaine acheté, OVH va envoyer un message à l'AFNIC qui, rappelons-le, gère le nom de domaine de premier niveau.fr en vérifiant avant si le domaine est toujours disponible. Et si oui, en disant que pour savoir où est l'adresse de lepodcast.fr, il faut venir voir chez lui. Et le travail s'arrête ici. En fait, le serveur de l'AFNIC est déjà enregistré auprès de ceux de l'ICANN, donc tout va bien. Mais maintenant, on veut le sous-domaine script de script.lepodcast.fr. Eh bien, on va dire sur les serveurs DNS d'OVH que script, tu vas le rediriger sur le serveur de PodCloud également. Mais une modification de la zone DNS peut ne pas prendre effet tout de suite, puisque rappelons-le, il y a un cache sur les serveurs DNS récursifs, et que par conséquent, cela peut prendre jusqu'à 48 heures pour qu'il refasse une requête. Voilà, on a terminé avec les DNS, ou pas exactement. Là, je vous ai parlé que du fonctionnement général du DNS. Mais je dois vous dire aussi qu'il y a plusieurs enregistrements différents disponibles sur les serveurs DNS de votre domaine, par exemple pour faire un lien entre un nom de domaine et une adresse IP, ce qu'on a vu dans cet épisode, il faut utiliser un enregistrement A pour l'IPv4 et AAAA pour l'IPv6. On peut aussi dire que le domaine script.bigaston.me est en fait un alias pour le domaine script.lepodcast.fr. Le serveur DNS récursif va rechercher script.bigaston.me, découvre que l'adresse est en fait sur script.lepodcast.fr et aller chercher son adresse. Le tout sans que vous vous en rendiez compte. Si vous voulez créer une adresse email derrière votre domaine, ce sera un enregistrement MX qu'il faudra utiliser. Et pour envoyer un sous-domaine vers un autre serveur DNS, du genre fr.wikipedia.org, qui n'est pas géré par le même DNS que wikipedia.org, ce sera un enregistrement NS. Et enfin, pour mettre juste du texte dans le DNS, par exemple pour vérifier que vous êtes bien en possession du domaine, on utilisera un enregistrement TXT. Il en existe bien sûr d'autres, mais je pense que ceux-ci sont les plus importants. Et voilà ce qui conclut cet épisode. Merci beaucoup à vous de l'avoir écouté et pour la patience dont vous avez dû faire preuve depuis le dernier épisode. Je le disais au début, mais j'ai eu un petit peu moins de motivation à propos de ce podcast. Mais voilà, cet épisode est maintenant prêt à sortir. Je ne sais pas quand sortira le prochain et je ne préfère pas prendre d'engagement. Je ne suis pas encore sûr du sujet, mais on verra bien. Comme d'habitude, vous trouverez les sources de cet épisode dans la description de celui-ci. Je remercie également les personnes qui m'ont aidé à le relire cet épisode pour qu'il soit le plus juste possible. Si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur utip.io/bigaston et vous pouvez me suivre sur Twitter. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.
Deconnection.